Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Aujourd'hui, je vous propose de boucler le cycle consacré aux initiatives de transition dans les entreprises, comment les entreprises se saisissent de la transition, comment elles s'y intéressent. Ça a été notre sujet tout au long du mois qui vient de s'écouler. Et je vous propose de terminer ce petit tour d'horizon avec la rencontre de l'entreprise Aquaterra Solutions, adhérent de l'association BioVallée et membre de la communauté J'entreprends en BioVallée. Et j'ai rendez-vous pour cela avec Stéphane Couré au bord du petit lac d'Eure. Vous allez comprendre pourquoi on s'est donné rendez-vous ici.
Bonjour jeune homme.
Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
Donc Stéphane Couré, gérant fondateur d'Aquaterra Solutions. Solution douce pour l'aménagement du territoire. Le génie végétal, appelé aussi génie écologique, pour stabiliser les berges, les aménagements hydrauliques, mais aussi protéger de l'érosion les talus. Aquaterra Solutions est née à Kliuskla, dans la Drôme, à côté de l'Oriole, entre l'Oriole et Mirmande. Aujourd'hui, les bureaux d'Aquaterra et le stockage d'Aquaterra, la production, a déménagé au Pouzin, mais de ce côté du Rhône. Par contre, nous avons nos pépinières aquatiques, nos aquapépinières, toujours dans la plaine de l'Oriole, quartier des Marais, comme son nom l'indique. C'est donc des bassins hors sol, avec des membranes étanches. Et dans ces pépinières aquatiques, on produit des géonates et des boudins de coco. Donc c'est des boudins de fibres de coco bio, que l'on plante de ces fameuses hélophytes, des plantes avec les pieds dans l'eau, la tête au soleil.
On va revenir un petit peu sur ces différentes techniques, mais pourquoi est-ce que vous m'avez donné rendez-vous aujourd'hui au lac d'Eure?
Parce qu'il y a quelques années, nous avons installé une île flottante végétalisée. Donc cette île, à l'origine prévue pour limiter l'érosion des berges, puisque c'est notre cœur de métier, hein, partant du principe que si on arrivait, grâce à une forme de couvercle, à atténuer l'amplitude des vagues, ça limiterait l'érosion des berges. C'est devenu un refuge pour que les canards nichent dessus, à l'abri des prédateurs que sont les belettes, les fouines, les renards, les sangliers et les humains. Puis les pêcheurs se sont aperçus rapidement qu'en dessous, on pouvait avoir une nidification des poissons et ces mêmes poissons pouvaient se protéger des cormorans. Donc ils allaient voir les collectivités locales et ils demandaient des îles flottantes qui allaient faire joli, qui allaient lutter contre l'érosion et qui allaient, bien entendu, servir de zone de nidification, de reproduction, de repos, aussi bien pour les espèces piscicoles en dessous que pour les anatidés, donc les cygnes, les canards, par-dessus.
Et c'est des îles qu'on installe où, par exemple?
Essentiellement des plans d'eau d'une certaine surface, quoi. Il faut quand même avoir 2-3 hectares pour que ça soit intéressant. Mais là, actuellement, nous répondons sur des projets pour le canal Saint-Martin à Paris. En vue des Jeux Olympiques, il y aura beaucoup d'îles flottantes végétalisées. Et ces îles flottantes donc, ont des végétaux en dessus, mais des racines en dessous. Et là, on a fait un gros programme de recherche avec l'École des mines de Nantes. On voit que dans le système racinaire des végétaux, il y a des milliards de bactéries qui, elles, vont décomposer la pollution. Nitrate, phosphate, mais même des métaux lourds. Et là, quand on est en Île-de-France, c'est intéressant d'avoir donc tout l'esthétique, mais en même temps quelque chose qui va réduire la turbidité. Donc la turbidité de l'eau, c'est les matières en suspension dans l'eau, mais aussi purifier les eaux. On en fait des plus grandes. Les plus grandes qu'on ait fait aujourd'hui, c'est 3500 m² en face de l'ancien hôpital à Strasbourg. C'était le programme du paysage qui a reçu le prix du paysage en 2015. On fait aussi des îles flottantes avec une couverture minérale pour servir de zone de repos et de reproduction pour les sternes arctiques dans leur migration. C'est une espèce protégée, a besoin de se reposer et niche dans les graviers.
C'est sur des zones qui sont déjà aménagées par l'homme, je suppose, parce que c'est là que vous intervenez principalement.
Nous intervenons principalement là, parce que c'est où il y a le plus de budget pour le faire. On a fait par exemple des gravières en Alsace, à la confluence de l'Allemagne, de la Suisse et de la France. Dans une énorme gravière, on a installé des îles, aussi bien des îles flottantes végétalisées que des espèces minérales. Mais où on a les meilleurs résultats, c'est quand même où la nature est préservée et où les oiseaux ne seront pas, on va dire, embêtés par passage de train, comme on vient d'entendre, comme une industrie à côté qui peut faire du bruit ou des norias de camions qui travaillent dans une gravière.
Est-ce que ça veut dire que ça existe à l'état naturel ? Ce que vous appelez une île flottante, est-ce que ça reproduit quelque chose qui existe à l'état naturel ?
Dans un certain nombre de pays africains ou sud-américains, on a des villages constitués d'îles flottantes. Dans nos pays, non. Les îles flottantes sont artificielles. Souvent, on va dire, notre principe à nous, c'est pas de dire on va refaire la nature. On va aider les industriels, on va essayer d'aider les collectivités locales à, avec peu de frais, avec peu de budget, à faire des choses intéressantes.
Je vous propose qu'on avance un petit peu et que vous me décriviez un petit peu l'île qui se trouve sur ce lac, qui a été installée quand ?
Je voulais faire la recherche ce matin. Je pense que ça remonte à 4-5 ans. Donc cette île flottante, en quoi elle consiste ? Un corps porteur, un corps, une structure souple, articulée. Pourquoi souple, articulée ? Parce que si elle est rigide avec les vagues, aujourd'hui c'est très calme, mais parfois on a beaucoup de vagues, il va falloir suivre le mouvement des vagues sans que ça casse. Et on a beaucoup travaillé sur la mise en œuvre de ne pas avoir la nécessité de recourir à des grosses machines. Auparavant, des îles flottantes, il y a 20 ans et plus, se faisaient souvent avec des gros tuyaux soudés entre eux ou vissés entre eux. Ces structures étaient très lourdes et comme elles étaient très lourdes, elles nécessitaient des gros engins de manutention pour les mettre à l'eau. Ces gros engins, quand ils s'approchent d'un lac, ben, au bord du lac, le terrain il est peu porteur, souvent il est gorgé d'eau, il y a de l'argile. Donc ces gros engins, il fallait leur faire des gros chemins. En fait, pour créer un écosystème artificiel au milieu du lac, on détruisait tout l'écosystème présent sur les berges. Notre postulat, c'était de créer un système qui soit manuportable, que l'on puisse tout faire à la main, sans aucun argent de manutention ou de levage. Donc on a des modules de 2 mètres carrés qui se clipsent entre eux sur la berge.
Est-ce que c'est ce qu'on voit derrière l'arbre, là ?
Tout à fait. Alors, là, on va dire que ce n'est pas très beau. C'est beaucoup trop petit pour ce lac, et puis c'est un peu loin. Mais là, voilà l'exemple. On peut mettre en œuvre sur le plan incliné. Au fur et à mesure qu'on l'assemble et qu'on le recouvre de végétation typique des zones humides, des plantes palustres, des hélophytes. Hélophytes, c'est des pieds dans l'eau, la tête au soleil. On va assembler tout ça sur la berge, on le pousse à l'eau au fur et à mesure. Et après, on l'emmène à l'endroit qu'on veut, avec des cordes, avec une barque. On met 2 ou 3 corps morts, donc des sacs de pierre ou des ancres au fond. Et l'île va pouvoir bouger au gré des vents et des variations du niveau d'eau.
Alors là, on voit qu'il y a des végétaux qui ont poussé dessus. Est-ce que c'est des choses qui se sont plantées naturellement ou qui étaient plantées au départ ?
Nous avons, nous, installé l'île flottante avec les végétaux dessus. Des végétaux vraiment typiques. On ne va pas mettre des arbres, mais vous voyez, on va mettre des carex, des joncs, des iris pseudacorus. Là, on crée en fait une zone humide artificielle flottante avec des plantes typiques des bords du lac. On peut accompagner la nature, on peut l'aider, mais surtout, il ne faut pas vouloir l'empêcher. Si on fait une île flottante pour la protéger avec des filets tout autour pour qu'il n'y ait aucun apport extérieur de semences ou de fragments de plantes qui vont se dupliquer, ce ne serait plus de la nature.
Est-ce que vous êtes les premiers à avoir lancé ça en France ?
Alors, les premiers, oui, et puis on a un concurrent aujourd'hui dans le nord de la France, mais on a un partenariat très étroit avec un Allemand. C'était un écolo pur et dur, lui, qui était un docteur en biologie et qui avait envie de faire des îles flottantes pour purifier les eaux, mais qui ne savait pas comment le faire. Moi, qui ai une formation en génie civil, on a réfléchi comment faire, nous, la structure flottante et lui, quelles plantes il fallait mettre. Donc, on a travailler ensemble pendant quelques années pour mettre au point le système qui aujourd'hui marche bien et donne satisfaction. Il en vend un peu plus en Allemagne que nous on en vend en France. Ce partenariat continue 15 ans plus tard. On est toujours de très bons amis.
Et vous, donc, vous venez du génie civil. Est-ce que vous pouvez un petit peu raconter davantage comment est née cette initiative d'Aquaterra ? Comment vous, vous y êtes venu et qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie-là ?
Alors moi, le génie civil, pour moi, c'était du béton et du béton. Et je dois avouer qu'à l'époque, ça ne me choquait pas du tout. Il y a une vingtaine d'années, j'ai eu la chance de me retrouver au chômage. Et avec une remise en cause très très violente, puisque j'ai changé de couple, j'ai changé de vie, j'ai changé de beaucoup beaucoup de choses. Et en tout cas, je me suis dit que la deuxième partie de ma vie, il ne fallait pas la faire comme la première. Et le respect de l'environnement, qui jusque-là n'était pas forcément ma priorité, il faut être honnête, je viens du milieu agricole, et bon, l'environnement, on le côtoie tous les jours, mais on ne s'en préoccupe pas du tout. Par contre, là, mon côté germanophile m'a amené à visiter beaucoup la Suisse et l'Allemagne, et j'ai vu plein de chantiers utilisant des techniques complètement différentes de ce qu'on faisait en France. Et partant du postulat que les Allemands et les Suisses ne sont pas plus bêtes que les Français, je me disais, si ça marche chez eux, pourquoi ça ne marcherait pas en France ? Donc j'ai essayé de trouver un bureau d'études pour travailler dans un bureau d'études avec ces approches différentes, mais je n'ai jamais trouvé. Tous les gros bureaux d'études me disaient « ce que vous nous proposez c'est génial, mais on ne sait pas dans quelle case vous mettre, donc ils ne pouvaient pas m'embaucher ». Donc j'ai voulu créer moi mon propre bureau d'études. Rapidement je me suis aperçu que des fois j'aurais du travail pour 50 et des fois j'aurais du travail pour zéro. Difficile de gérer tout cela. Donc le bureau d'études s'est transformé en bureau d'études et puis on faisait la prescription et on faisait aussi la commercialisation des solutions. Au départ, en achetant tout en Allemagne. Et puis, peu à peu, on a commencé à produire nous-mêmes. Et maintenant, on produit une partie, on revend une partie. On travaille sur toute la France. On fait 15 à 25% de notre chiffre d'affaires à l'export.
Je suis allé voir sur votre site d'autres solutions que vous commercialisez, que vous mettez en place. Et une des solutions principales que vous mettez en œuvre sont des gabions. Donc, c'est des sortes de cages de fer à l'intérieur dans lesquelles on met des cailloux. Et d'ailleurs, j'ai découvert que ça avait une origine au départ. Ça vient de la défense militaire, apparemment, au XVIe siècle.
Je pense qu'avant que les militaires s'en servent, beaucoup s'en servaient pour conforter les digues. Les berges, c'est-à-dire qu'ils tressaient des branches de sol remplies de cailloux, de terre, et ainsi ils confortaient, ils protégeaient, ils créaient une carapace pour les digues des lacs, les digues des berges, pardon, les digues des cours d'eau, les berges. Après, le génie militaire s'en est employé pour faire là aussi des tressages remplis. Bon, après, pour des questions de mise en œuvre, les militaires, quand ils voulaient jouer à la guerre, ils se sont amusés à remplacer ça par des sacs de sable, des sacs de terre. Donc, c'est le duc de Wellington, on dit, qui a généralisé cet usage des gabions. Aujourd'hui, un gabion, c'est une cage, un caisson en grillage métallique ou synthétique, mais on va dire en privilégiera le métallique, avec un traitement contre la corrosion qui aujourd'hui fait que ça durera plus de 150 ans, donc on n'a aucun problème. Le béton dure moins longtemps que ça. Hein. Donc on va faire une cage en grillage que l'on va remplir de cailloux pour réaliser des murs de soutènement, des écrans anti-bruit, des protections de berges, des aménagements hydrauliques, mais aussi des aménagements paysagers, des habillages de façade et plein d'autres choses. Les avantages du gabion, on a une structure qui est drainante. Il y a 30 à 35% de vide entre les cailloux. Donc, quand on réfléchit à la globalité, on va économiser le drainage derrière et au moins, on est sûr que ça ne se colmatera jamais. C'est souple, c'est-à-dire que ça peut supporter des légers tassements ou mouvements de terrain. C'est monolithique, toutes les cages sont reliées entre elles, donc elles vont pouvoir supporter des mouvements, des tassements de terrain ou des poussées non prévues initialement. Enfin, c'est très écologique puisque ces vides peuvent servir de refuge à des macro-invertébrés, mais aussi à une microfaune, que ce soit des petits mammifères, mais aussi des insectes, des lézards et toutes ces choses-là. En même temps, il y a toute une flore qui peut pousser dans les interstices des gabions. Aujourd'hui, chacun s'accorde à dire que c'est très écologique, respectueux de l'environnement, parce que la plupart du temps, on va utiliser des matériaux pris à proximité ou sur place. Quand vous voulez faire une protection de berge en enrochement, je ne parle pas du béton, hein, mais si vous voulez faire de l'enrochement, vous allez devoir excaver des gros volumes de terre, donc évacuer ces matériaux, avec toutes les conséquences que ça a sur le réseau routier, tous ces camions qui vont évacuer toute la terre que vous évacuez. Et puis, ces camions vont devoir ramener des gros blocs d'enrochement. Et les blocs d'enrochement, ça ne pousse pas au coin. Souvent, il faut aller chercher dans des carrières un peu lointaines. Donc, ces noyades de camions qui vont revenir vont finir de détériorer les chaussées. Et on va mettre une carapace d'enrochement. Si vous mettez du gabion, on va réduire l'épaisseur par 3 ou par 4. Donc c'est quand même intéressant, ça veut dire 3 à 4 fois moins de terrassement et d'évacuation de matériaux, et ça veut dire 4 à 5 fois moins d'apport de matériaux, parce qu'on va en prendre même une partie sur place, ou on va la prendre à proximité. Donc un goût global, un coût écologique global, beaucoup, beaucoup plus favorable.
Eh bien je vous propose qu'on marche un petit peu en direction d'une autre installation que vous avez faite, ici avec votre entreprise Aquaterra. Donc c'est bah justement ces fameux gabions. On est toujours sur l'écocyte, mais c'est à quel endroit de l'écocyte ?
Alors le pôle bio de l'écocyte d'Eure, dans la Drôme, donc c'est un bâtiment qui réunit plusieurs entreprises intervenant dans le domaine du bio, essentiellement alimentaire, et le soubassement plus l'étage sont habillés de gabions. gabions remplis de galets de la Drôme, important à préciser. Donc, outre le fait que c'est très joli, ça fait un bouclier thermique, ça fait aussi un refuge d'insectes, comme on a vu tout à l'heure, et quelque chose qui va absorber en cette saison, le bâtiment est orienté vers l'est, il va absorber la chaleur du matin, pouvant le garder dans la journée. Inversement, quand il fait trop chaud, c'est un bouclier thermique. La force d'Aquaterra a été de créer des gabions beaucoup plus costauds pour faciliter la mise en œuvre. Par exemple, là, vous avez des grilles. Au lieu d'avoir des grilles galvanisées, nous utilisons un alliage pour protéger de la corrosion composé de zinc et d'aluminium. Le mariage de ces deux métaux, très différents. Pourquoi ? Le zinc est un matériau qui est très intéressant, utilisé dans la galvanisation, mais si vous le rayez, la structure microcristalline, c'est fini, ça va rouiller. Alors que l'aluminium, lui, s'oxyde beaucoup plus rapidement. Du coup, il va venir cicatriser la blessure. Une couleur qui se patine avec le temps, la couleur graphite, c'est-à-dire que l'aluminium vient créer une gangue autour qui va protéger le zinc. Et donc, même si on le raye ou si on coupe le fil aux extrémités, ça va cicatriser. C'est tous ces matériaux nouveaux que l'on a voulu mettre en avant, que l'on a voulu pousser. Les habillages en gabion, quand on faisait des gabions tissés auparavant, là, il aurait fallu mettre 50 cm et honnêtement, ça n'aurait pas été joli. Une chose aussi, actuellement, je suis en commission de normalisation pour la mise en œuvre des ouvrages en gabion. Une chose que nous imposons, c'est que les grilles à l'intérieur soit avec une maille plus grosse.
Oui, les mailles plus grosses, ça veut dire qu'il y a plus d'air, plus d'espace entre chaque tige métallique.
Mais en plus, le diamètre de fil est plus petit. Donc, beaucoup moins d'acier. Et ainsi, il y aura une continuité des cailloux d'une couche sur l'autre et côte à côte, comme on peut voir sur cet habillage à côté. Et ça, c'est quelque chose que je me suis battu pour imposer dans cette norme de mise en œuvre, que ça devienne un standard. Parce que on utiliserait ainsi beaucoup moins d'acier. Utiliser beaucoup moins d'acier, c'est bon pour la planète. Dans cette norme, je me suis battu aussi pour qu'on écrive qu'on va privilégier l'utilisation de matériaux pierreux locaux. Bien sûr qu'ils doivent satisfaire, ils doivent être non gélifs, non friables, ayant la plus haute densité possible, mais que ça soit écrit pour bien sensibiliser tout un chacun.
Et c'est vous qui aviez fait le pont des Lônes ou pas ?
Le pont des Lônes, nous n'existions pas encore, puisqu'Aquaterra Solutions a été créé en 2004. Alors, le scandale, pour moi, le pont des Lônes, ça reste quand même une des choses difficiles à comprendre localement. Il y avait à l'époque un fabricant de gabions à Valence, à quelques kilomètres de là. Et ce fabricant était 25% plus cher, alors qu'il était à 4-5 km du chantier, que les gabions qui ont été achetés à une société anglaise. Et cette même société anglaise les avait achetés à Dubaï. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé et j'ai dit, mais c'est abusé. Si on veut développer les techniques gabions, il faut arrêter ces prix exorbitants faits par quelques entreprises nationales. Donc c'était avant la création d'Aquaterra. Aujourd'hui, nous vendons des gabions. Les ponts des Lônes, aujourd'hui, on le vendrait, c'est clair.
Mais des galets, des roches qu'on trouve dans les gabions, est-ce qu'on n'en manque pas ?
Alors, question intéressante. Des galets, ici dans la Drôme, on n'est pas prêt d'en manquer, puisqu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et il y en aura toujours beaucoup, beaucoup. Et l'usage que l'on en fait est relativement faible dans les volumes que l'on utilise, que l'on emploie. Il faut savoir qu'on ne peut pas construire sans matériaux, que ce soit du bois, de la pierre, de l'acier. Alors, choisissons la solution la plus respectueuse de l'environnement.
Alors c'est un petit peu aussi la question qui gratte un peu, mais finalement on parle ici là dans le cycle qu'on vient de consacrer à la manière dont les entreprises s'intéressent à la transition et y participent d'une certaine manière. Votre activité, elle n'existe que parce qu'il y a des gros chantiers de construction qui, d'un point de vue de l'aménagement des territoires, sont quand même très très impactants pour la nature. Et du coup, par rapport à votre choix, est-ce que là, on ne touche pas à une forme de limite ?
Alors, contrairement à ce que vous pourriez croire, on fait quelques, bien sûr, des gros chantiers qui sont médiatisés, mais la plupart de notre activité, c'est quand même une kyrielle de petits ou de moyens chantiers. L'approche, on ne peut pas être contre tout. Dire qu'on ne doit pas construire ni route, ni autoroute, ni aéroport, ni canal, ni barrage, ni bâtiment, à mon avis, c'est voué à l'échec. Je sais qu'en France, certains ont cette doctrine-là. Moi, je dis construisons en respectant au maximum l'environnement et l'écosystème en place.
Est-ce que, par rapport à ce que vous me disiez là, est-ce qu'il y a des chantiers que vous ne feriez pas ?
Alors, des chantiers pour des raisons éthiques. Nous avons refusé des chantiers. Quand on se rend vraiment compte que c'est une manipulation de l'opinion, ou quand à l'étranger, c'est des conditions qui ne sont pas, qui ne correspondent pas à notre volonté. Par exemple, chez nous, nous refusons tout ce qui est corruption, tout ce qui est éthiquement non acceptable. Nous avons refusé une grosse commande pour l'opération Barkhane au Mali. En même temps, à la réflexion, on se dit, d'abord, nous, on n'a pas livré, mais d'autres personnes ont livré. Est-ce que ce n'est pas l'industrie française qui aurait dû en profiter plutôt que, dans ce cas-là, un groupe anglais ? Mais en même temps, si ça avait pu protéger quelques-uns de nos soldats, pourquoi pas ?
Il s'agissait d'une commande militaire, du coup, pour l'opération Barkhane.
C'était une opération, une commande militaire par un groupe malien burkinabé pour le Mali. On l'a refusé. Avec le recul, je pense que ça a été une erreur stratégique et une erreur même morale. On a dit non, c'est la guerre, on n'y va pas. Mais il ne faut pas se leurrer. Si nous ne livrons pas, d'autres livrons. Mais en même temps, on aurait pu peut-être protéger quelques vies parce qu'on aurait livré quelques semaines plus tôt.
Et quand vous parliez de chantier que vous ne feriez pas, si vous avez l'impression qu'il y a une manipulation, vous pensez à quoi ? Alors, sans évidemment citer d'entreprise ou quoi, mais...
Alors, c'est typiquement des chantiers liés à l'aménagement des lacs et des cours d'eau. Dans les grandes villes, on veut se donner bonne conscience, donc on va saupoudrer, on va faire quelques îles flottantes, on a plein de pollution au fond du lac, où on va enterrer de la pollution, et donc pour se donner bonne conscience, on va faire quelques îles flottantes, et puis on va dire, ben voyez, la collectivité, bon, on a peut-être laissé un peu de pollution au fond, ou un peu beaucoup, mais on a mis des îles flottantes, ça fait joli, ça fait bien. Donc on ne veut pas être les relais de cette propagande. Mais ça, c'est de moins en moins fréquent. D'abord parce que les médias jouent assez bien leur jeu d'informateurs, et il y a toujours quelqu'un qui, dans la chaîne de décision, de commandement, va s'opposer à ce genre d'opération, qui était encore courant il y a quelques années. On nous a eu sollicité pour des projets qui n'avaient d'autre but que de verdir un projet, de faire accepter un projet par la population ou par les élus, et puis en disant, de toute manière, on a besoin que ça soit beau pour l'inauguration, et 6 mois après, on s'en fout. Quand j'ai commencé à travailler il y a une trentaine d'années, je me rappellerai toujours un chantier ici en Ardèche. On avait semé de l'herbe sur le talus et donc c'était du régras. Le régras anglais, le gros avantage du régras, vous semez 2 semaines après chrono, c'est vert. 3 semaines plus tard, c'est tout crevé. Et puis, je parlais avec le gars qui avait... nous, on avait fait des soutènements et tout, des gros projets. Mais le gars qui avait vendu ses graines. Et il appelle et il me dit, mais nous, on appelle ça le mélange inauguration. J'ai dit, c'est quoi ? Il me dit, ben, c'est un attrape-couillon. On sème ça. 2 semaines après, c'est bien vert. 3 semaines après, c'est magnifique pour l'inauguration. Si les élus, ils repassent 2 semaines plus tard, c'est tout crevé. Mais au moins, c'était vert le jour de l'inauguration. Et alors, j'ai dit, mais ça sert à quoi ? Il me dit, ça sert à rien. Et j'ai dit, mais il faudrait faire quoi ? Et il me dit, vous voyez, quand on fait un mélange grainier, on met quelques graines pour qu'elles poussent rapidement, que ça soit joli. On en met d'autres qui vont, elles, pousser dans 3 mois, dans 6 mois, mais qui vont avoir des racines profondes. Et puis on en met même d'autres qui, elles, vont pousser que dans 1 an, 2 ans. Donc les premières vont faire joli, vont verdir et vont stabiliser un peu le talus, mais elles vont pas tenir. Les deuxièmes, elles vont enraciner durablement et maintenir le sol pour le mettre une protection contre l'érosion. Et les troisièmes, quatrièmes, elles vont venir en relais et donner un couvert végétal dense. Mais ça, c'est un mélange technique. Et un mélange technique, forcément, que ça coûte plus cher qu'une espèce mono, du régras, qui fait beau le jour de l'inauguration. Depuis, ben, nous-mêmes, nous vendons des mélanges grainiers, et ça m'est resté. Donc, par exemple, nous, un mélange grainier, aujourd'hui, c'est des mélanges qui sont techniques, qui sont étudiés par des spécialistes. On met 20 à 25 grammes par mètre carré. Quand les mélanges basiques, on en met 35 à 40 grammes. Donc forcément que notre mélange, il est beaucoup plus cher parce qu'il y a des graines beaucoup plus chères dedans. Mais comme il est de très bonne qualité, on en met beaucoup moins au mètre carré. Donc le prix de semence est à peu près le même. Et comme de toute manière, dans l'acte d'ensemencer un talus ou une berge, ce n'est pas les graines qui coûtent le plus cher, notre solution est beaucoup moins chère parce que si on la regarde à 6 mois, à 1 an ou à 2 ans, elle sera beaucoup plus efficace. Tout à l'heure, vous avez dit, est-ce qu'il y a des chantiers que vous refusez ? Avant Noël, on a livré par avion des gabions à Polynésie française. Honnêtement, moi, ça m'embête bigrement parce que vous vous rendez compte, le bilan carbone de livrer quelques gabions par avion, et on a livré des gabions et des agrafes pour terminer un chantier. Avant Noël, c'est parti. Aujourd'hui, on est mi-janvier, nous avons une commande pour Saint-Barth, une pour la Martinique, une pour la Nouvelle-Calédonie. C'est pas la Drôme et l'Ardèche. Alors, j'ai pas dit qu'on vend pas dans nos départements, mais moi, ça me fait quand même un peu mal au cœur et ça m'interpelle. Pourquoi, comment se fait-il qu'on livre aussi loin? Mais après tout, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas d'usine à gabions. En Polynésie française, il n'y en a pas non plus. En Martinique ou à Saint-Barth, il n'y en a pas. Donc, il faut bien qu'ils les achètent. Alors, qu'ils les achètent chez nous ou ailleurs. Alors, bon, ben, on se dit comme ça. Après tout, si nous, on le vend pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le vendre.
Peut-être qu'ils pourraient se fournir plus près, tout simplement.
Oui, je pense à la Nouvelle-Calédonie qui s'approvisionne en Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'est vrai. La Polynésie française, voilà, la Polynésie française, c'est quand même le plus loin puisqu'on fait le tour en avion dans l'autre sens. Bon.
Moi, je suis dubitatif.
Vous y croyez à la transition ?
Alors, nous sommes engagés dans la transition écologique, mais je crois qu'il faudra des années avant qu'une certaine forme de sédimentation des idées se passe et qu'il en ressorte quelque chose de transposable. Qu'est-ce que la transition ?
Pour vous, c'est quoi ?
Pour moi, aujourd'hui, c'est pas la même chose que hier et pas la même chose que demain. Dans quel contexte nous mettons-nous ? Avec qui discutons-nous ?
Qu'est-ce que ça évoque pour vous, sincèrement ?
J'ai reçu aujourd'hui le livre de la BD de Jean Covici, Un monde sans fin. C'est quand même une BD qui a été vendue a priori l'année passée à 500 000 exemplaires. Auteur décrié et pourtant un auteur qui a, je l'espère, éveillé les consciences de millions de personnes. Après, dès qu'on intervient dans ces domaines, on est sûr d'avoir beaucoup d'opposition. C'est dommage. Moi, je pense que toutes les personnes qui œuvrent à faire prendre conscience que le monde est fini, le monde, on doit essayer quand même d'intervenir, chacun dans notre mesure, chacun dans nos capacités, chacun dans nos moyens pour essayer de ralentir de sa destruction. Comment dire, tout ce qui va dans ce sens, pour moi, est indispensable, mais on s'aperçoit bien que ce n'est pas possible parce qu'il y a plein de personnes qui pensent plus que les autres, au moins qui braillent plus que les autres.
Et si vous deviez refaire des choix dans votre vie, ce serait quoi ?
Au lieu d'attendre 40 ans pour agir concrètement pour la protection de la planète, ben commencer à 10 ans ou à 15 ans. Oui, c'est sûr que si c'était à refaire, mais comme je vous l'ai dit, venant du milieu agricole, vivant à la campagne, je n'avais pas conscience qu'on maltraitait à ce point notre planète. On considérait d'abord que les ressources, elles étaient infinies. Je me rappelle, à l'époque, dans les fossés qui traversaient notre campagne, on y vidait les fosses septiques, on y vidait les huiles de vidange, on y vidait les pulvérisateurs, sans se rendre compte que, voilà, on brûlait tous nos déchets, et plus ça fumait noir, plus c'était sympa. Bon, ben aujourd'hui, il est clair que j'hallucine d'avoir participé à cette bêtise collective. Aujourd'hui, nous essayons, on ne rattrapera jamais tout, on ne réparera jamais tout, mais en tant que chef d'entreprise, dans nos entreprises, c'est vraiment dans la charte, c'est gravé, d'être, de respecter la nature, de respecter la planète, et de voir, de réfléchir en permanence comment contribuer à sa reprise.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Stéphane Couré d'avoir bien voulu nous faire cette visite de quelques installations de votre entreprise donc Aquaterra Solutions. On était sur l'écosite à Heure. On a vu cette île flottante qu'on revoit à présent au soleil couchant. Et puis tout à l'heure, les gabions utilisés pour le mur du bâtiment du pôle bio. Bonne fin de journée à vous.
Merci.
Stéphane Couré est membre de la communauté d'échange et d'action J'entreprends en Biovallée, à laquelle sera consacrée l'émission de la semaine prochaine.